Radio Kapi.
Les informations, Gisèle Cage. Bonsoir à tous, merci d'être à l'écoute. Voici votre journal d'information. On commence tout de suite avec le grand titre de ce vendredi 28 novembre. Ituri vers une cohabitation pacifique entre Bagoro et ses scellés. Après des années de tensions liées aux conflits armés, les sociétés civiles saluent le retour progressif du dialogue, fruit des efforts conjoints des autorités politico-militaires et coutumières. Kinshasa, les enfants réclament la protection de leurs droits. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, des enfants congolais interpellent le gouvernement pour garantir l'accès à l'éducation, à la santé et au bien-être, tandis que les autorités réaffirment leur engagement. Notre invité Jean-Pierre Biamungu appelle à l'unité pour défendre Uvira. Depuis la ville lacustre d'Uvira, le secrétaire exécutif de la Ligue des Indignés pour la citoyenneté responsable exhorte les FARDC et les Wazalendo à dépasser leurs divergences pour empêcher l'AFC M23 de s'emparer de cette ville stratégique du Sud Kivu. À l'ouverture de ce journal, direction l'Ituri où les sociétés civiles des Bagoura et de Sesele dans le territoire de Djougou saluent le retour progressif d'une cohabitation pacifique entre leurs communautés. Il y a peu, les échanges étaient encore difficiles, marqués par des tensions liées aux conflits armés et aux clivages communautaires. Selon des sources locales, cette accalmie est le fruit de plusieurs rencontres initiées par les autorités politico-militaires et coutumières afin de consolider la paix. Les détails avec Jean-Claude Loki Dile.
Plusieurs signaux témoignent de ce rapprochement, explique Gédéon Dino, responsable de la société civile de Bagoro. Il cite notamment un grand rassemblement tenu mercredi dernier à Kpadolé, où les notables, les acteurs de la société civile, les responsables des FARDC ainsi que les représentants des groupes armés MAPI et CODECO ont tour à tour sensibilisé la population à l'importance de vivre ensemble. Au début du mois de novembre, des chefs coutumiers et des délégués de la société civile avaient aussi pris part à une rencontre à Tchoumian, à une centaine de kilomètres de Bounia. Chacun était chargé de retourner dans son entité pour encourager sa communauté à la non-violence. Pour Gédéon Dino, ces initiatives commencent déjà à porter leurs fruits. Le site d'exploitation d'or, baptisé Morgue, à cause des tueries fréquentes à cet endroit, est de nouveau fréquenté par les membres de toutes les communautés, explique-t-il. Il en est de même des activités champêtres. Pour les acteurs locaux, le défi reste désormais de maintenir cette dynamique et de transformer ces signaux d'apaisement en une paix durable dans cette partie du territoire de Djougou. Bounia, Jean-Claude Loki Dile, Radio Kapi.
Le rapprochement se rétablit entre les FARDC et les Wazalendo après une brève période de tensions dans la ville d'Uvira. Les affrontements meurtriers de la semaine dernière s'apaisent progressivement. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Sud, au Sud Kivu, hier, le haut commandement de deux forces ont procédé ensemble à l'inhumation des victimes de ces malentendus tombés sous les balles lors des incidents survenus à Uvira. Un reportage signé Jean Kassami.
La tension était perceptible entre les FARDC et les Wazalendo au point d'en venir aux affrontements entre les deux groupes. Il y a eu au total 7 morts et 19 blessés de part et d'autre, y compris des civils. Hier, la cérémonie d'inhumation de deux Wazalendo ayant succombé au coup de feu a servi comme symbole de réconciliation. Les commandants de la région militaire et son collègue du secteur opérationnel ont participé physiquement et logistiquement aux cérémonies aux côtés de plusieurs officiers Wazalendo et ensemble ils ont fumé les calumets de la paix. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Sud-Sud Kivu, le sous-lieutenant Bui Rigen, confirme que les relations sont redevenues normales.
Comme la relation s'est rétablie entre les deux parties, nous allons unir tous nos efforts, encore une fois de plus, pour repousser cette agression jusqu'à son dernier retranchement.
Des rencontres et des rapprochements se poursuivent entre les deux groupes pendant que les leaders communautaires d'Uvira appellent les Wazalendo à revenir au bon sens, de rester soudés au FARDC pour mener à bien leur lutte commune contre l'agression de la RDC. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 12 personnes, dont plusieurs combattants Wazalendo, un soldat de deuxième classe, comparaissent devant le tribunal militaire de garnison de Beni, siégeant en audience foraine à Walikale. Le procès ouvert mercredi dernier dans la salle de réunion de l'administration territoriale porte sur des graves infractions réprochées aux prévenus selon nos sources sur place. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
Selon l'acte d'accusation annoncé par le capitaine magistrat Claude Kabeya, représentant le ministère public, les faits pour lesquels ces soldats de deuxième classe et ses co-accusés sont poursuivis avaient été commis entre 2024 et mai 2025. Les 12 sont poursuivis entre autres pour détention illégale d'armes de guerre, viol civil, participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, dissipation des munitions ainsi que incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Lors de l'audience d'ouverture tenue ce mercredi, le tribunal s'est consacré à l'identification des prévenus et à la lecture des infractions mises à leur charge. Pour le ministère public, ce procès devra revêtir un caractère pédagogique afin de servir d'exemple et de dissuasion dans un contexte sécurité fragile. Cette foraine, organisée à l'initiative du gouverneur militaire Somo Evariste lors de son récent passage à Walikale, devrait s'étendre sur environ 2 semaines, indiquent les sources sécuritaire dans la zone. La société civile du territoire encourage cette initiative. Pour son président Fisto Misona, le décès de l'assassinat de l'un de leurs collègues en 2024 à Ombo est aussi retenu dans ce procès.
Justice encore dans la province de l'Équateur. Le tribunal militaire de garnison de Mbandaka a condamné à la peine capitale le policier Wally Malongi José, agent de deuxième classe reconnu coupable du meurtre d'un civil au grand marché de la ville. Ce verdict a été prononcé à l'issue d'un procès en flagrance ouvert mercredi 26 novembre lors d'une audience publique tenue devant la mairie de Mbandaka. Les détails avec Askan Zibiatayoro.
Le policier Wally Molangi José n'a pas échappé à la sanction qu'a réclamé le député provincial Louison Mumbenga Botuli dans sa motion d'information déposée au bureau de l'Assemblée provinciale. Les crimes que ce policier a commis en tuant par balle réelle un homme au quartier Ebenjola dans la commune de Mbandaka lui a valu en ces jours la peine de mort. Selon les témoignages, ce verdict est bien salué par la population de Mbandaka confrontée ces derniers temps à l'insécurité grandissante dans la ville. Pour le Mbandakais, ce verdict sert aujourd'hui d'exemple pour tout agent de l'ordre qui tenterait d'ôter la vie humaine pour une simple dispute. Par ailleurs, dans ce verdict, le sous-commissaire principal de la police, Prince Bolowa Sala, et le chef de la localité Bongonjo, Konde Yende, faisant partie au procès, sont acquittés. Et puis, le policier José Ndioko, en fuite, est condamné par défaut. Il faut rappeler que ce verdict fait suite à une altercation qui a dégénéré au grand marché de Mbandaka entre les policiers et les civils. Les policiers condamnés ayant perdu son sang-froid a tiré à bout portant sur un civil qui voulait simplement se déplacer pour chercher l'argent nécessaire au paiement de la taxe pour la recharge de son téléphone. Cet incident s'est produit lors d'une opération de recouvrement forcé des taxes infligées aux conducteurs de mototaxis et chargeurs de téléphone.
Des enfants congolais haussent leur voix et exigent du gouvernement la protection de leurs différents droits d'accès à l'éducation, à la santé et au bien-être. Ils ont fait leur plaidoyer ce jeudi à Kinshasa lors de la Journée internationale de l'enfance. La Première ministre a réaffirmé l'ambition de son gouvernement de placer le bien-être de l'enfant au cœur de ses différentes actions. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC assure que son organisation a accompagne l'État congolais dans la mise en œuvre de sa politique en faveur des enfants. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans sa prise de parole à la tribune de cette journée, un enfant e-reporter n'a pas hésité de placer le gouvernement devant ses responsabilités en matière de défense des droits des enfants à travers les pays. Elle cite, entre autres, les droits d'accès à l'éducation, à la santé, aux loisirs et au bien-être pour assurer un avenir meilleur du pays.
Mais comment préparer le Congo de demain si l'on ignore ceux qui demain continueront l'œuvre de bâtir un Congo plus beau qu'avant? L'intérêt supérieur de l'enfant doit guider toutes les décisions qui le concernent.
Les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC estiment que la voix des enfants compte dans la construction du pays. Bruno Le Marquis.
Dans un pays où plus de la moitié de la population est composée d'enfants, leur voix compte. Leurs droits doivent être promus.
Pour sa part, la première ministre assure que son gouvernement fait du bien-être de l'enfant l'une de ses priorités.
Des mesures phares comme la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né illustrent la volonté à placer le bien-être de l'enfant au cœur de nos actions.
Cette journée, célébrée dans le cadre des 35 ans de la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, est placée sous le thème « Ma journée et mes droits ».
Au Kasaï oriental, l'eau potable s'est fait rare en Boujimaï. Depuis près de 2 semaines, plusieurs quartiers sont privés d'approvisionnement. La régie des eaux évoque un manque d'énergie pour faire fonctionner ces installations, tandis que la SNEL, fournisseur d'électricité, signale une panne au niveau du transformateur de la sous-station de Tchiboué. Les explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis près de 2 semaines que plusieurs femmes ménagères, les jeunes filles et garçons, avec des bidons jaunes et des bassins, circulent sur des avenues de la ville à la recherche de l'eau potable. Explication de quelques femmes ménagères.
Hier soir, j'ai manqué même pour préparer à cause de l'eau.
Je viens de Kalalangata, je pars chez Moulambampoy pour chercher d'eau.
On se réveille depuis 4 heures pour chercher de l'eau.
Contacté, Didier Mboudilelo, directeur régional de la régie des eaux, évoque le manque d'énergie.
Nous n'avons pas assez courant. Nous fonctionnons avec des groupes électrogènes qui n'ont pas la même capacité que les courants hydroélectriques. Nous fonctionnons 10 heures par jour à Loukélingué pour consommer 1000 litres de carburant. Nous fonctionnons 2h30 à peu près. Or, avec les courants hydroélectriques, vous pouvez produire 8000 mètres cubes par jour.
Pour sa part, Jean-Crispin Mukendi, directeur provincial de la SNEL, annonce une panne sur le transformateur au niveau de la sous-station de la centrale hydroélectrique de Tchiboué.
Il faut le réparer. En entre-temps, nous fonctionnons avec les groupes thermiques, une capacité inférieure qui n'arrive pas à couvrir toute la population. De 18h à 12h30, avec des lestages de quartier.
La SNEL attend donc une nouvelle acquisition pour remplacer les transformateurs tombés en panne, affirme son directeur provincial. Esther Ndalafina Mboujimaï, Radio Okapi.
Qui sont gagnés? Une vingtaine de journalistes radio, télévision et influenceurs viennent d'être formés sur la gestion de l'infodémie et la communication en santé, une initiative de la Division provinciale de la santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'objectif poursuivi est de lutter contre la propagation des rumeurs nuisibles aux interventions sanitaires. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Cette formation a permis de renforcer les capacités des professionnels des médias, notamment à détecter, analyser et contrer les fausses informations. Celles-ci sont souvent à l'origine de la méfiance, du refus des soins et parfois des violences envers le personnel de santé. Selon le docteur Bavon Tangunza, infodémique manager à l'OMS, le discours de haine a été également abordé au cours de cette formation.
Faisons suite à la rumeur qui a coûté la vie à 17 personnes ici à Tchopo sur la disparition des organes et l'atrophie des organes génitaux. Donc c'est suite à cela que nous avons pu venir ensemble pour renforcer les capacités des journalistes et les outiller pour que les bons messages, les faits puissent être diffusés.
De son côté, Jacques Maliro, responsable de la communication sur le risque et engagement communautaire à l'OMS, insiste sur l'importance des sources fiables pour crédibiliser l'information et prévenir les malentendus.
La prévention des rumeurs, parce qu'ils jouent un rôle important, ils sont à la fois partie du problème et de la solution. Donc maintenant, c'est côté solution où ils doivent vraiment jouer, c'est la prévention des crises, un journalisme positif, un journalisme anticipatif.
Les journalistes formés s'engagent à pratiquer un journalisme d'anticipation et de prévention, ceci pour accompagner les efforts sanitaires et protéger les communautés contre la désinformation. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À 4 jours de l'entrée en vigueur de la facture normalisée, la Direction générale des impôts, DGI, intensifie sa sensibilisation alors que des incompréhensions et des résistances persistent encore chez plusieurs contribuables. L'administration fiscale rappelle le caractère obligatoire de cette réforme et les perspectives qu'elle ouvre pour les recettes publiques tout en appelant les opérateurs économiques à s'y préparer sans attendre. Écoutez à ce sujet M. Mava Long Nzunzi Trésor, chef de bureau relations avec les administrations nationales de la Direction générale des impôts DGI au micro de Jocelyne Moussa Mponde.
Nous rencontrons plusieurs difficultés, notamment celles liées à la résistance des opérateurs économiques qui pensent que la Direction générale des impôts voudrait s'immiscer dans leurs affaires, alors qu'en réalité, ce n'est que un moyen qui nous permettra justement, à travers la transparence des transactions commerciales, que la DGI dispose des informations utiles pour récolter ses impôts. Mais aussi, pour certaines personnes, cela paraît comme un nouvel impôt qui s'ajoute sur les impôts déjà existants. C'est plutôt un procédé qui permettra aux opérateurs économiques susceptibles de récolter la taxe et la valeur ajoutée, d'utiliser qui vont leur permettre à émettre la facture normalisée conformément à la loi. La facture normalisée permettra à l'État d'accroître ses recettes et à première vue, il y a des projections qui tournent autour de 20% des recettes déjà collectées tous les ans qui vont s'ajouter sur les recettes de la TVA. La réforme de la facture normalisée relève du domaine de la loi. Nous sommes déjà sur le chemin des non-retours.
La facture normalisée entre en vigueur ce 1er décembre. La Direction générale des impôts, DGI, rappelle aux opérateurs économiques ne disposant pas du dispositif électronique fiscal qu'ils peuvent se connecter à sa plateforme à travers le lien www.edef.dgirdc.cd pour pouvoir connecter son système de paiement et émettre la facture normalisée.
Actualité internationale.
Les Nations Unies ont fermement dénoncé le renversement des autorités élues en Guinée-Bissau, survenu quelques jours après les élections générales. Le secrétaire général Antonio Guterres, profondément préoccupé, appelle à la restauration immédiate et inconditionnelle de l'ordre constitutionnel et à la libération des responsables détenus. Il exhorte toutes les parties à privilégier le dialogue pacifique et à respecter l'état de droit. Selon les médias, des militaires ont pris le pouvoir avant la proclamation des résultats et installé le général Horta Intaha comme président de transition, tandis que le président déchu Umaro Sissoko Embalo aurait trouvé refuge au Sénégal. Ce coup d'État s'ajoute à une série de putsch en Afrique de l'Ouest, accentuant l'instabilité régionale. L'ONU réaffirme son soutien à la CDAO, à l'Union africaine et aux partenaires régionaux pour restaurer la démocratie et la stabilité dans le pays.
L'invité.
Notre invité, Jean-Pierre Biamungu Zembezembe, secrétaire exécutif de la Ligue des Indignés pour la Citoyenneté Responsable, nous rejoint depuis Uvira. Il exhorte les différentes forces présentes, notamment les FARDC et les Ouazalendo, à dépasser leurs divergences afin de consolider leur objectif commun. Empêcher les rebelles de l'AFC M23 de s'emparer d'Uvira, une ville stratégique pour le Sud Kivu et pour la RDC en général. Ils s'entretiennent avec Jean Kassami.
Messieurs Biamungu Zembezembe, Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous appelez aujourd'hui à un sursaut face à la montée de l'insécurité qui secoue une nouvelle fois la ville d'Uvira. Quels sont les récents événements qui vous font revenir sur ce sujet?
Il y a eu la recrudescence de l'insécurité depuis dimanche qui a mis à mal le climat de confiance entre la FRDC et les Ouazalendo. Depuis le mois de juin, il y a vraiment un accru de confiance entre la FRDC et les Ouazalendo et surtout depuis le départ de Gacita qu'on a soupçonné d'avoir cédé la ville de Bukavu et plusieurs autres territoires. Hélas, aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau commandant ville, il y a des malentendus, un climat de méfiance contre les Ouazalendo, les incriminant qu'ils n'ont pas la formation, que ce sont des civils armés, et voilà qu'il y a des échauffourées. Nous avons enregistré 14 morts déjà, de part et d'autre, et certains civils innocents, et vingtaine de blessés.
Citer les FARDC et les Ouazalendo réunis pour sauvegarder l'intégrité du territoire, mais aujourd'hui, ce sont les mêmes groupes qui se rentrent dedans.
Nous retrouvons que tous se comportent au même, et cela ne donne pas vraiment un bon climat de confiance entre les deux camps.
Avez-vous également un mot à adresser au gouvernement central de Kinshasa?
Les Ouazalendo sont prêts à attaquer. Certaines unités des FARDC sont prêtes à attaquer. Mais ils sont contrés par les cessez-le-feu. Nous étions à Louvong hier pour le monitoring de l'engouement et des besoins de la population. Nous avons eu des déclarations claires des militaires des FARDC étant au front. Nous sommes en train d'appeler le gouvernement central de Kinshasa de ne pas faire la blague, de ne pas prendre cette situation à la légère. Et qu'il sache que si Uvira tombait, c'est toute la RDC qui partira. Nous avons la frontière avec la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. 56% des productions de tous ces pays ont comme marché à Uvira. Et c'est Uvira qui distribue à Bukavu, à Fizi, à Maniema, à Lubumbashi, à Kalemie et consorts. Et comme Uvira est leur centre de gravité pour l'écoulement de leur production, et si Uvira est tombé, tout ce pays environnant, parce que c'est Uvira qui est leur débouché, ils seront obligés de coopérer avec l'ennemi. Et là, les relations régionales avec Kinshasa seront coupées. Ça sera axé vers la partie occupée par l'ennemi, parce que les relations internationales sont des intérêts qui comptent. Nous regrettons que depuis ces échauffourées, le président de la République n'a jamais foulé ses pieds à Uvira pour venir fortifier, moraliser. C'est tout. La première ministre n'a jamais foulé ses pieds ici à Uvira pour venir donner réconfort aux Azalendo et aux FRDC. Même le budget du pays doit être centré ici pour encadrer les Azalendo, encadrer les FRDC se trouvant au front et autoriser l'offensive. Nous ne serons pas toujours là en train de jouer à la défense pendant que l'ennemi est en train de progresser.
Et quel comportement la population d'Uvira devrait afficher pour accompagner les efforts de pacification de ces milieux?
La population de l'Est, nous fils d'Uvira, nous souffrons depuis longtemps. Depuis la guerre de 96, de 98, de 2003 et jusqu'à présent, il y a des milliers de morts. Il faut voir la situation, que les gouvernements prennent ces choses au sérieux et qu'il ait pitié de la population qu'il est censé protéger. La population d'Uvira doit afficher les comportements de neutralité, de conciliation et de dialogue. Parce que les Wazalendo sont nos enfants et les FRDC sont nos compatriotes. Et nous devons travailler ensemble, nous devons le mettre ensemble et ne pas céder aux sympathies des uns ou des autres.
Monsieur Zembezembe Biamungu Jean-Pierre, je vous dis merci.
C'est nous qui vous remercions, monsieur Jean Kassamé.
Jean-Pierre Biamungu Zembezembe parlait de la nécessité pour les forces présentes à Uvira, donc les FARDC et les Wazalendo, de dépasser leurs divergences afin de travailler ensemble pour empêcher les rebelles de l'AFC M23 de prendre le contrôle de la ville. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage, à la mise en onde Alain Goy, coordination assurée, Juide Mystère Bilanda. Retrouvez ce journal en podcast sur notre site www.radiocapi.net et suivez toute l'actualité en continu sur Radio Okapi et nos réseaux sociaux. À très vite sur la même fréquence.